Le journal Jacques-Yves Molima.
Bilan divergent mais lourd de l'accident ferroviaire survenu la nuit de mercredi à jeudi au Kasaï occidental. Les premiers soins sont organisés pour les rescapés blessés grâce à la délégation mixte autorité gouvernementale MONUC. Le gouvernement s'avance en guerre contre les pollutions sonores des églises. Plus de tapages nocturnes entre 22h et 5h du matin. Une mesure du ministre de la Justice qui entend réglementer le secteur des confessions religieuses. L'extension de l'autorité de l'État dans les territoires de Massissi au nord Kivu, empesté par différents groupes armés, l'administrateur du territoire de Massissi demande la population à avoir confiance au gouvernement. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Accident ferroviaire dans la nuit de mercredi à jeudi à Kakengi au Kasaï occidental. Le bilan diverge selon les sources, mais ils sont tous très lourds. Une centaine de morts selon le ministre de l'Information, une soixantaine de morts et plus de 120 blessés graves selon des organismes sur place. Les rescapés de l'accident sont transportés soit par vélo, soit à pied vers le premier hôpital à 12 km du lieu de l'accident. Un reportage de Pierrot et la Mégie.
À l'arrivée de la délégation conjointe, la surprise était entière. Les corps éparpillés dans tous les sens. Les blessés transportés avec les moyens de bord, comme les vélos ou encore sur les épaules. Il faut marcher à pied pour atteindre le premier hôpital de Kakengi qui est à 12 km du lieu de l'accident. D'autres corps se trouvent encore sur les wagons couchés. On attend toujours une grue de la SNCC pour soulever les wagons surchargés des marchandises. Témoignage de Louis Bouchapou de l'ONG La Voix des Sans Bouche.
L'accident est en tout cas très grave. Nous lançons appel aux ONG pour prendre des interventions. Sinon, il y a beaucoup de blessés, à peu près 100 blessés, 68 morts.
L'accident est survenu dans les environs de 23h dans la nuit de mercredi. Depuis lors, les rescapés ont été sans secours. Un rescapé de l'accident explique que le calvaire est dû à l'excès de vitesse du train de la SNCC. La délégation sous la conduite de la MONUC et des autorités provinciales a commencé le premier soin aux rescapés. Aux dernières nouvelles, un communiqué du ministre de l'Information révise le nombre de morts à une centaine et plusieurs dizaines de blessés. Informés, le chef de l'État Joseph Kabila et le Premier ministre ont envoyé sur place une commission composée des ministres de l'Intérieur, de la Santé, du Transport et des Affaires humanitaires. Une commission d'enquête a été mise sur pied par le ministre des Transports. De Kananga, Pierrot et Lameji, Radio Okapi.
Le gouvernement congolais se lance dans l'assainissement du secteur des associations religieuses. Hier, jeudi 2 août, le ministre de la Justice a conféré avec les responsables des églises de réveil et des églises indépendantes dans la salle de zoo à Kinshasa. Georges Misai Bouka, ministre de la Justice, nous donne l'essentiel de ses décisions au micro de Babel Pongo.
Les églises font des tapages nocturnes, surtout ces églises qui utilisent des instruments de sonorisation et aussi les pilules sur les avenues. Nous avons pensé fixer les heures entre 22h et 5h du matin pour respecter le sommeil des autres, des populations environnantes. Ça veut dire que les asbels confessionnels ne peuvent pas faire la politique. Comme vous voyez l'article de la loi 004, si un membre qui veut faire la politique, ça il le fait à titre individuel. Le représentant doit être sain d'esprit, avoir une bonne moralité, ne pas avoir encouru une condamnation pénale, dépassant 5 ans, avoir un diplôme de l'institut supérieur ou universitaire ou un diplôme équivalent en matière théologique. Dès cet instant, nous attirons l'attention de toutes les asbels confessionnels et de se mettre en règle. Et dans un premier temps, nous voulions leur donner 3 mois. Et pour les églises qui ne vont pas se conformer à ces mesures, il y aura des suspensions de dépassement de 3 mois. Nous allons aller au-delà.
Du côté des confessions religieuses, certaines se montrent réservées sur les décisions du ministre. Ils souhaitent que les modalités pratiques de la mise en application de ces décisions soient confiées à une commission mixte gouvernement-confession religieuse. On écoute le pasteur Albert Kakienza, responsable des églises de réveil.
On a écouté le message, nous avons réagi en disant qu'on prenait acte et nous avons proposé qu'on mette sur pied une commission paritaire pour examiner l'application de ces mesures.
Et dans toutes ces mesures-là, il y a quelque chose qui vous gêne?
Écoutez, ce n'est pas le moment de le dire. Nous attendons, le ministre dit qu'il va étudier sur les modalités de la mise sur pied de la commission. Dès lors que la commission sera mise sur pied, l'église de l'éveil apportera ses suggestions, ses propositions.
Du côté des églises non dénominationnelles du Congo, le pasteur Diamant Kalonji trouve normal les mesures du ministre. Seulement, il souhaite qu'il leur soit accordé un délai de 6 mois pour permettre à tous les membres de se mettre en ordre. Écoutons le pasteur Diamant Kalonji.
C'est des bonnes mesures, mais qui doivent être encadrées de manière paritaire entre le gouvernement et les églises, un délai doit être donné. Nous l'avons demandé pour que ça se fasse dans la paix. Dieu est le premier à donner la loi aux hommes. S'il faut que les gens respectent les normes telles que avoir telles études, être sain d'esprit, c'est pour la sécurité de tout le monde. C'est pourquoi nous avons des écoles de formation théologique. Il est dit par la loi, après 6 mois d'autorisation provisoire, la semaine soit reconnue. Et de ce côté-là, le gouvernement doit faire un effort.
À propos des heures de prière, tu te veillais.
Des heures de prière de 22h à 5h, c'est l'heure où on doit se reposer.
Au Nord Kivu, plusieurs mois après les affrontements entre les troupes régulières FARDC et celles qui obéissaient alors à Laurent Kunda dans les territoires de Masisi, l'autorité de l'État commence à s'étendre progressivement sur l'ensemble de ce territoire. Selon l'administrateur du territoire de Masisi, c'est notamment grâce aux différentes descentes qu'il vient d'effectuer à travers le territoire. Mais, concernant les milices et autres groupes armés qui sont légions dans ce territoire, l'administrateur de Masisi estime qu'il s'agit là des questions relevantes de la compétence de l'État à l'échelon supérieur. Justin Moukanya, au micro de Sylvestre Kilolo.
Une situation qui s'est détériorée pendant plusieurs mois, vous ne pouvez pas prétendre la rétablir dans un mois. Mais en fait, en tant qu'administrateur de territoire de Masisi, vous comprendrez que je ne peux pas me limiter à gérer seulement la cité de Masisi. Je m'emploie partout, sur tout l'étendue du territoire, pour que l'autorité de l'État soit rétablie totalement. La question des groupes armés disséminés à travers le territoire de Masisi, à mon humble avis, c'est une question hautement politique. Je crois que c'est une question qui doit être résolue de manière politique et sur le plan politique. À la population, nous demandons que la population garde le calme. Je crois que le gouvernement de la République démocratique du Congo est en train de s'employer pour que la paix et la sécurité reviennent totalement sur toute l'étendue du territoire de Masisi. Il y a lieu d'espérer et de faire confiance au gouvernement.
Équateur maintenant, pour la première fois après 3 ans, le tribunal de grande instance de Guadeloupe peut maintenant siéger en matière pénale. Ceci après l'arrivée le week-end dernier d'un juge affecté à cette juridiction par le ministère de la Justice. L'autorité locale débordée par des cas de viol, de vol et d'insécurité s'est dit soulagée. Il reste cependant à résoudre le problème de prison pour garder les malfaiteurs. Dominique Colombi.
C'est depuis 3 ans que le tribunal de grande instance de Guadeloupe ne siégeait pas pour insuffisance des juges. On attendait deux juges et un magistrat du parquet. Un seul juge est arrivé à bord d'un avion de la MONUC. Les autres magistrats, faute de moyens pour les titres de voyage, sont attendus. Mais selon Emmanuel Bikakala, procureur de la République près des parquets de Guadeloupe, avec deux juges et un magistrat assumé, le tribunal de grande instance peut désormais siéger en matière pénale, c'est-à-dire pour juger plus de 500 dossiers, notamment sur des affaires de viol, des cas d'assassinat, des meurtres et des vols à main armée. Le parquet de Guadeloupe a dû accorder des autorisations de liberté provisoire à certains prévenus après de longues détentions en prison. Maintenant, il va falloir les convoquer de nouveau. Les maires de Guadeloupe s'est dit soulagés, car estiment-ils, les voleurs à main armée et d'autres malfaiteurs, maintes fois arrêtés par la police, qui circulent librement après un court séjour en prison, vont être jugés et condamnés. Cependant, l'état actuel de la prison de Guadeloupe n'offre pas les garanties de garder les condamnés. Le procureur de la République, Emmanuel Bikakala, compte transférer les futurs condamnés à la prison de Businga, à 140 km au sud de Guadeloupe, où les conditions de détention carcérale semblent quelque peu réunies. De Guadeloupe, Dominique Wolombi Mungapangé, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa pour parler démolition des constructions anarchiques. En effet, ces démolitions par l'hôtel de la ville s'accompagnent de plaintes de leurs propriétaires. Certains d'ailleurs ont traduit l'hôtel de ville en justice. Ils disent disposer des documents officiels leur délivrés par des services de gestion des concessions des titres immobiliers, c'est-à-dire par la division urbaine de l'urbanisme et habitat, ainsi que celle des affaires foncières. Une question se pose cependant sur certains sur terrain, comment se passe l'acquisition de ces documents? Les éléments de réponse avec Nazaire Koko.
Selon la loi foncière, la division de l'urbanisme et habitat établit en premier ressort, après la demande du client, un avis urbanistique en rapport avec le plan d'aménagement de la ville. C'est normalement après cet avis que le deuxième service, les affaires foncières, se charge de délivrer des documents indiqués après avoir vérifié de la conformité du terrain à la loi. Parmi les documents indiqués, le contrat de location, le certificat d'enregistrement, l'autorisation de bâtir. L'autorisation de bâtir pour les grands édifices est accordée autorisée par le ministre des tutelles. Par contre, pour les petits édifices, c'est le gouverneur de la ville qui l'accorde. Cependant, des sources internes des deux services au niveau du district de la Founa indiquent que des documents sont émis par ces services compétents, même sur des terrains litigieux, publics et privés. À l'origine de cette attitude, ces sources citent les jugements iniques rendus en catimini par certains cours et tribunaux et qui doivent être appliqués, l'incapacité des deux services d'appliquer la loi à cause du pouvoir d'achat du client et aussi des pressions politiques, notamment des membres des différents gouvernements congolais. À ce tableau déjà sombre s'ajoutent toujours, selon ces mêmes sources, des faux documents émis par des réseaux parallèles. Pour mettre fin à ces différentes pratiques, plusieurs experts du domaine proposent la tenue des États généraux des affaires foncières et même la révision de la loi foncière jugée caduque.
Et sur le plan juridique, la loi foncière de 1973 dit que la démolition par l'État des constructions privées obtenues en bonne et due forme s'accompagne d'une réparation pour préjudice subi par les propriétaires. Mais il n'en est pas ainsi pour des concessions acquises en violation de la loi. C'est ce que dit Maître Dominique Kamwando de l'avocat sans frontières.
Lorsqu'il s'agit des titres obtenus en violation de la loi sur la parcelle, en violation des dispositions urbanistiques, les biens et régimes fonciers et immobiliers précisent que les titres obtenus en violation de la loi et en violation des dispositions urbanistiques sont nuls. Dans ces cas, ces personnes ne peuvent pas se prévaloir d'une quelconque réparation parce que le titre nul ne produit aucun effet en droit. Alors, je vais donner un exemple pour illustrer. Le sol est divisé en domaine public et en domaine privé. Lorsqu'une personne acquiert une parcelle de terre sur le domaine public de l'État, or, nous savons que le domaine public de l'État est hors commerce, il ne peut être cédé, et qu'il arrive à obtenir un titre sur le domaine public de l'État, il s'agit aussi d'un titre obtenu en violation de la loi.
De son côté, le ministre de l'Urbanisme et Habitat a justifié la démolition de ces constructions par le fait que, selon lui, les documents détenus par les plaignants ont violé la loi foncière. Pour Laurent Simon Kitenge, le principe de la continuité de l'État ne peut pas être appliqué pour ces cas-ci. Il est interrogé par Nazaire Koko.
Dans le cas d'espèce, ces gens-là ont des papiers, c'est ce qu'ils vous disent. Mais je vous dis que ces papiers ne sont pas des papiers légaux, parce que pour l'acquisition des parcelles, il y a une procédure, et la procédure n'a pas été respectée. Une ville se construit sur base du plan d'aménagement. Il n'y a pas un plan approuvé par le ministère. Il n'y a pas un arrêté de lotissement pour ces sites. Je n'ai pas encore vu ça.
Ces gens ont versé de l'argent et perçu par les services de l'État.
Les secrétaires généraux ou les conservateurs qui étaient dans les coups, ils n'étaient pas à leur premier coup. J'affirme avec force que les agents ont agi dans l'irrégularité, moyennant des pratiques obscures que vous connaissez.
La population s'est fait donc escroquer.
Quelle population? Le propriétaire de ces concessions-là savait qu'ils étaient en train de tricher. Et vous savez qui était? Ce n'est pas la population, c'était des grands dirigeants de l'époque ou même d'aujourd'hui. Moi, j'ai la liste de tous les concessionnaires là qui ont trempé. Je ne dis pas qu'on va arrêter parce qu'on trouve, on met la main. Quelques-uns sont déjà en prison pour ça.
Autre chose à présent, il ne reste plus que 4 espèces de poissons dans le lac Mouero sur la centaine qui y vivaient il y a quelque temps. Cette disparition est due à l'utilisation de filets à petite maille par les pêcheurs artisanaux. Pour lutter contre cette situation, le gouvernement provincial du Katanga a lancé ce jeudi une opération d'échange de filets prohibés avec des filets autorisés. Opération lancée mardi dernier par 3 ministres provinciaux qui ont effectué le déplacement à Kilwa. Parmi eux, Juvenal Kitungwa, ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage. Il est joint au téléphone par Paul Mounanga.
Pour le moment, nous sommes rendus compte que il y a pratiquement un dépeuplement des lacs à cause de la pratique, c'est-à-dire de l'utilisation des filets prohibés. C'est-à-dire au niveau du gouvernement provincial, nous avons pris la décision de combattre par tous les moyens cette pratique parce que c'est une pratique qui risque de dépeupler complètement nos lacs. Parce que là, ils utilisent des filets très très longs et des filets avec du mal prohibé. Là, nous avons trouvé un domesticaire qu'on est en train d'utiliser. Alors, avec de telles pratiques, c'est pratiquement le dépeuplement total de lacs que nous allons connaître. Parce que sur les 109 espèces qui existaient au niveau du lac Mouero, par exemple, maintenant il n'en reste que 4, il n'y a que 4 espèces. Nous avons amené 2000 filets. Et les 2000 filets, c'est pour une opération d'échange de filets autorisés contre les filets prohibés.
Au Bas-Congo, difficulté d'attraper un moyen de transport depuis hier, jeudi à Matadi, c'est la suite à l'ultimatum de l'inspecteur provincial de la police qui a expiré mardi dernier. Selon le président de la SECO Bas-Congo, les propriétaires de véhicules non en règle ont préféré garder leur voiture dans les enclos afin d'échapper aux sanctions de la loi. Conséquence, la population de la ville portuaire a fait des kilomètres à pied à la recherche d'un moyen de transport. Ajouté à cela l'exploitation des demi-terrains ou demi-parcours par les chauffeurs de taxi. Le président de l'association des chauffeurs du Congo, section Bas-Congo, Roli Sueka, explique cette situation au micro de Dani Kindanzita.
L'ultimatum que nous avons reçu de la part de l'inspecteur provincial de la police est terminé depuis mardi. Maintenant, tout le monde doit se mettre en règle. S'il y a des gens qui ont retiré leur véhicule, ce sont des gens qui n'ont pas pu acheter le document de leur véhicule. C'est pourquoi nous avons remarqué une certaine carence de véhicules qui font les transports en commun dans la ville de Matadi. Les gens ont retiré leur véhicule, parce qu'ils n'ont pas de moyens peut-être, mais les gens, d'autres gens sont en train de s'apprêter pour s'acquérir de leurs documents de bord.
Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.